VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Au Nigeria, 21 lycéennes de Chibok enlevées par le groupe djihadiste nigérian Boko Haram il y a plus de 2 ans ont été libérées par le ravisseur ce jeudi. C'est ce qu'a affirmé la présidence nigériane, Nani Talani.
Les jeunes filles, dont les noms n'ont pas encore été dévoilés, ont été échangées contre 4 prisonniers de Boko Haram, selon une source proche du dossier. Tôt ce matin, les filles ont été amenées à Koumché, à 15 km de Banki, près de la frontière avec le Cameroun. Elles doivent être acheminées à Abuja. Les 4 combattants de Boko Haram sont arrivés à Banki par un hélicoptère de l'armée et ont été conduits à Koumché dans des véhicules du Comité international de la Croix-Rouge, qui n'a pas souhaité faire de commentaires. Dans un communiqué, Garba Shehu, le porte-parole de la présidence, a confirmé la libération des 21 filles facilitées par le CICR et le gouvernement suisse, sans évoquer un quelconque échange de prisonniers. Le mouvement Bring Back Our Girls, qui lutte pour la libération des filles kidnappées, dit attendre la confirmation de leur identité. Le 14 avril 2014, près de 276 lycéennes avaient été enlevées par Boko Haram à Chibok. 57 avaient réussi à s'échapper et l'une d'elles a été retrouvée par l'armée au mois de mai.
Nouveau développement dans le dossier du président Thomas Sankara assassiné en 1987 au Burkina Faso. Mercredi, lors d'une conférence de presse à Ouagadougou, les avocats de la famille Sankara ont révélé que 14 personnes étaient inculpées. Ils ont aussi indiqué qu'une procédure d'extradition était en cours contre l'ancien président Blaise Compaoré, aujourd'hui réfugié en Côte d'Ivoire. Au micro de Bagassi Koura, les explications de maître Stanislas Menewende Sankara, avocat de la famille du président défunt à Ouagadougou.
Ce qu'il y a de nouveau, c'est notamment les demandes d'extradition de l'ex-président Blaise Compaoré et l'extradition de Hyacinthe Kafando, qui était un de ses sicaires de la date rapprochée. Mais il y a aussi que les auditions se sont poursuivies et nous avons pu faire le point des inculpations. Il y en a au total 14 à ce jour, dont 8 sont en détention ferme.
Alors, vous parlez de demandes d'extradition concernant l'ancien président Blaise Compaoré qui se trouve en Côte d'Ivoire. Hein. Mais on avait dit que le mandat d'arrêt international contre lui a été annulé. Expliquez-nous un peu quelle est la différence entre ces deux procédures, le mandat d'arrêt et puis la demande d'extradition dont vous parlez.
Je dois démentir cette information parce qu'en réalité, Blaise Compaoré est poursuivi dans 2 dossiers différents. Dans le dossier donc, qui concerne le président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons assassinés le 15 octobre 1987, la procédure qui a été diligentée, Blaise Compaoré fait l'objet d'un mandat d'arrêt international qui n'a pas du tout été annulé.
Concernant donc ce mandat-là, qu'est-ce qui vous dit que ça va marcher puisque l'ancien président est devenu ivoirien depuis son exil en 2014 en Côte d'Ivoire?
Oui, mais je pense que la Côte d'Ivoire ne cautionne pas du tout l'impunité. De toutes les façons, il y a un certain nombre de textes d'accord qui lient la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Et même que dans le cadre du traité d'accord d'amitié, nous avons un arsenal de documents et d'accords qui peuvent nous permettre d'insister auprès de la République de Côte d'Ivoire pour que Blaise Compaoré soit extradé ou éventuellement qu'il soit jugé sur le territoire ivoirien. Mais il n'échappera pas à la justice.
Alors, vous êtes aussi l'avocat du dossier Norbert Zongo. Ces derniers temps, on a très peu entendu parler de ce dossier.
Oui, vous avez parfaitement raison, puisque dans le dossier Norbert Zongo, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait déjà rendu un arrêt sur les réparations pécuniaires. L'arrêt a été intégralement exécuté par le Burkina Faso. Il reste la procédure judiciaire qui fait l'objet donc d'une saisine d'un juge d'instruction qui est en train également d'instruire ce dossier. C'est vrai que nous y reviendrons à part entière sur ce dossier, puisque le 13 décembre prochain, nous allons commémorer l'assassinat donc, du journaliste émérite Norbert Zongo.
Maître Stanislas Benewende Sankara, avocat de la famille du président défunt Thomas Sankara.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La RC a vécu hier de nouvelles violences meurtrières qui ont fait 30 morts et 57 blessés à Kagabandoro, dans le centre du pays, selon la MINUSCA, la mission onusienne sur place. Et ce, alors qu'à Bangui, le tout nouveau cardinal centrafricain nommé par le pape tendait la main aux musulmans dans une marche pour la paix. John Lyndon.
Quatre miliciens ex-Séléka avaient tenté de s'emparer du groupe électrogène d'une radio locale. L'un d'entre eux a été tué dans cet incident. Par la suite, les ex-Séléka ont lancé des représailles, mais se sont heurtés à la force onusienne qui vient d'être renforcée après de précédentes violences. Toujours hier, l'archevêque de Bangui, Monseigneur Dieudonné Zapalainga, le premier cardinal centrafricain de l'histoire, a marché pour la paix vers le PK5, quartier musulman. Il était accompagné des milliers de personnes, toutes confessions confondues. La semaine dernière, après l'assassinat d'un officier dans ce même quartier, 11 musulmans peuls ont été tués. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, doit se rendre à Bangui les 30 et 31 octobre pour annoncer officiellement la fin de l'opération Sankaris.
En RDC, l'ultimatum de 48 heures que l'opposition réunie au sein de la plateforme Rassemblement avait donné aux autorités après l'arrestation de l'éminent opposant Bruno Tshibala a expiré. La réaction de Peter Kazadi, l'avocat du Rassemblement.
Les 48 heures se sont écoulées. Maintenant, je crois qu'il est temps de passer à l'action et c'est ce que les responsables des îles de presse sont en train de préparer, ensemble avec les rassemblements. Je crois, sans anticiper, que dans les deux jours qui viennent, une action sera organisée. L'action consistera pour les leaders des rassemblements ainsi que les peuples congolais d'aller se constituer prisonniers chez le procureur général qui est décidé à arrêter tout le monde. De pouvoir multiplier les actions tendant à restreindre l'espace politique et ceci sont considérés chez nous comme des signaux de la mauvaise foi de ces pouvoirs. M. Kabila n'a jamais voulu des élections. Il a passé 5 ans à la tête de notre pays. Au terme de son mandat, il est incapable de nous offrir ces élections-là. Nous ne voyons pas comment il peut les organiser aujourd'hui dans un bref délai.
Peter Kazadi, l'avocat du Rassemblement d'opposition en RDC. En Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma a déposé un recours en justice pour empêcher la publication d'un rapport d'enquête de la médiatrice de la République sur l'influence présumée de familles d'affaires sur le chef d'État. Les détails avec Idriss Fall.
À la veille de la publication de ce rapport attendu, Bonganine Kulunga révèle qu'il y a un recours en interdiction qui devrait être examiné mardi par la justice. Monsieur Zuma a été entendu pendant 4 heures jeudi dernier par la médiatrice. L'enquête de Tuli Madonsela vise la riche famille Gupta d'origine indienne soupçonnée d'être intervenue dans la nomination de ministres ou de dirigeants d'entreprises publiques. Le président reconnaît être proche des Gupta, mais a toujours assuré avoir été le seul à décider de l'attribution des portefeuilles ministériels. La médiatrice de la République doit officiellement quitter ses fonctions samedi après un mandat de 7 ans. Elle a déjà obtenu que le président Zuma rembourse une partie de l'argent public utilisé pour rénover sa résidence privée. Elle sera remplacée par Boussissioué Mkrebané, une avocate qui a d'ores et déjà laissé entendre que les affaires de corruption à la tête de l'État ne seraient pas sa priorité.
Conflit au Yémen maintenant, les États-Unis ont bombardé pour la première fois les rebelles chiites houthis au Yémen. Washington les accuse d'avoir visé des navires de guerre américains en mer Rouge. Une allégation démentie par les insurgés, Nathalie Barge.
Les missiles Tomahawk tirés par le destroyer USS Nitz ont visé 3 stations radars sur la côte de la mer Rouge, selon le porte-parole du Pentagone, Peter Cook, affirmant que les sites ont été détruits. Aujourd'hui, les Houthis ont nié avoir visé la veille un navire de guerre américain. Les affirmations américaines sont sans fondement et les rebelles n'ont rien à voir avec cette action, a déclaré un de leurs responsables militaires. Jusqu'ici, les États-Unis n'étaient pas intervenus militairement contre les rebelles qui contrôlent Sanaa et d'autres régions, limitant leurs actions à des attaques de drones contre Al-Qaïda dans le sud. Soutenus par l'Iran, les Houthis sont engagés avec les forces de l'ex-président Ali Abdallah Saleh dans une guerre civile contre les forces loyalistes, soutenues par une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr VOA Afrique. www.voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.